Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Avant de démarrer cette conférence sur la vocation sacerdotale, je nous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour les vocations sacerdotales et épiscopales dans ton Église. Pour ta fidélité à appeler sans cesse des hommes au service de la sanctification de leurs frères et sœurs, pour rendre immaculée ton Église et sainte. Te demandons, Seigneur, un saint futur évêque pour le diocèse de Luçon. Te demandons des vocations sacerdotales pour notre diocèse, pour la France et pour toute l'Église catholique. Te rendons grâce, Seigneur, pour cet appel que tu mets dans le cœur d'hommes, qu'ils soient étudiants, jeunes ou professionnels. Te demandons de ne pas y mettre un frein, que nous soyons prêtres, consacrés ou que nous soyons parents. Te demandons aussi, Seigneur, que dans ton Église se développe l'admiration juste et sainte du sacerdoce. Que dans ton Église et dans toutes les structures ecclésiales, paroissiales, scolaires, familiales, diocésaines ou autres, la place du prêtre puisse se trouver, plutôt retrouver sa juste place. Nous te le demandons, car tu nous aides toujours, car tu es notre guide. Et nous te le demandons par celle qui est la mère des prêtres, ta mère, la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. L'enseignement qui va vous être donné sur la vocation sacerdotale ne va pas être exhaustif, mais il est important. Il est important parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu connaît mal le ministère sacerdotal, cette vocation de prêtre dans l'Église, parce que cette vocation est mise à mal au sein même de l'Église comme dans la société, spécialement en France, mais pas que. Parce que le Seigneur en appelle beaucoup et que parfois nous y faisons écran par notre non-compréhension de ce qu'est le ministère sacerdotal, etc. Donc nous allons dire des choses sur la spiritualité du prêtre, sur la théologie du prêtre, mais ainsi sur les combats spirituels que peut vivre le prêtre et son Église, et enfin les signes de réjouissance prophétique qu'en ce moment nous pouvons voir. Qu'il soit petit ou grand. Alors tout d'abord, il faut le dire, un prêtre ou une prêtre, une prêtresse, ça a existé en dehors de la religion du christianisme et du judaïsme. Dans beaucoup de religions, il y a quelqu'un qui fait office de médiateur entre les hommes et les divinités. Ainsi, on avait des prêtres et des prêtresses. Par exemple, on a ce phénomène-là. Je ne suis pas un spécialiste, mais par exemple dans les religions grecques, où il y avait des oracles qui étaient faits par des prêtresses qui étaient en transe, voilà, des choses comme ça. Donc on a le prêtre, on peut dire, ou la prêtresse, dans les religions, est un médiateur. Il parle à Dieu, il parle à Dieu des hommes, et il parle aux hommes de Dieu. Voilà. Il intercède en leur faveur pour des supplications, pour des guérisons, quelque chose. Dans l'Ancien Testament, les prêtres vont peu à peu se développer. Déjà, Israël va développer le culte à Dieu. Ainsi, Abraham va déployer, il va vouloir à un moment donné, l'ange lui dira d'offrir son fils, son unique fils. Voilà, donc il va faire un bûcher, il va préparer l'Holocauste. Ça ne va pas se faire. Mais toujours est-il, il y a cette dimension d'offrande qui est présente déjà chez Abraham. Et quand Abraham passe et qu'il rencontre le Seigneur, il pose une stèle, il fait un sacrifice sur cette stèle. À différents endroits, dans l'Écriture, dans la Genèse, il va faire un lieu de rencontre où il a rencontré Dieu, il commémore par une stèle un sacrifice. C'est un culte, en fait, un exercice sacerdotal. Avec l'Exode et comment dire, l'esclavage du peuple hébreu en Égypte, va se développer de plus en plus le culte, en particulier la figure d'Aaron et de Moïse, où va y avoir une caste propre, où Dieu donnera, pendant l'exil, pour la libération, durant le désert, Dieu va donner une codification de la tente de la rencontre, des habits sacerdotaux pour le grand prêtre, et va répartir même des règles où le peuple donnera un peu de ce qu'il a comme revenu au prêtre, de nourriture, etc., au grand prêtre et au prêtre. Donc ça va se faire, et la famille, la tribu de Lévi va recevoir le sacerdoce, le rôle d'exercer au nom du peuple le culte à Dieu, voilà, avec tous des rites de purification, etc., d'entrer dans la tente de la rencontre, et puis un jour, quand le temple sera construit sous Salomon, d'entrer dans le saint et dans le saint des saints. Et puis il y a tout un rôle de prêtre dans l'Ancien Testament entre les prêtres et le grand prêtre qui est nommé pour un certain temps, etc. À l'époque de Jésus, il y a eu un grand prêtre, hein, voilà, qui l'a arrêté. Voilà. Donc ce rôle, Israël est un peuple sacerdotal. Et au sein même d'Israël, il y a une formalisation d'un culte exercé par des prêtres. Une tribu parmi les 12 tribus, les Lévites. Israël est un peuple sacerdotal parce qu'il rend un culte au vrai Dieu, selon ce que le vrai Dieu a révélé et a dit de faire. Ainsi, Dieu, le Seigneur, a dit à travers Moïse un certain nombre de lois prescrites pour exercer le culte. Voilà. Il y a certains rites de purification. On ne prenait pas n'importe quel animal, il fallait qu'il soit en bon état, etc. Différents rites. Donc Israël a une codification. Quelle est l'importance de ce culte? Ce culte est une action de grâce. Ce culte est une demande d'intercession pour aider, pour protéger. Et ce culte aussi est pour l'expiation des péchés. Voilà. Dans Israël, vous avez le culte du Yom Kippour, le jour du grand pardon, où le grand prêtre prononce une fois par an le nom de Yahweh, qui est imprononçable, dans le Saint des Saints, pour pouvoir demander pardon au nom du peuple. Voilà. Ça, c'est un rituel. Ça, vous avez toute cette lignée qui se transmet et qui s'est officialisée à un moment donné dans le temple de Jérusalem, qui est détruit environ 50 ans après Jésus-Christ. Et Jésus avait prophétisé que ce temple serait détruit. Donc aujourd'hui, le judaïsme n'a plus de lieu formel pour exercer le culte. Et les juifs, quelque part les plus orthodoxes, les plus, j'allais dire, traditionnels, conformes à leur foi, désiraient rebâtir le temple pour à nouveau exercer le culte. Donc le judaïsme est aujourd'hui plus un rabbinisme, c'est-à-dire un commentaire de l'Écriture qui s'est déployé après la déportation à Babylone. Voilà. Mais la dimension cultuelle du sacrifice est moins présente. Okay ? Donc ça, c'est toute cette partie-là, c'est développé dans cette caste, le culte, je l'ai dit, pour les raisons. Mais vous voyez un deuxième courant, mystérieux, pas plutôt un deuxième courant, une deuxième figure du prêtre dans l'Ancien Testament avec Abraham, qui va rencontrer un certain Melchisédek. Très intéressant, parce que c'est un prêtre qui n'a pas d'origine. On ne connaît pas son origine. Tellement. Et donc, on rompt avec la lignée de prêtres issus d'une famille. Et en fait, Paul comprendra que le Christ est prêtre, non pas à la manière de Lévite, mais de Melchisédek, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'origine. Et c'est tout l'épître aux Hébreux de la contemplation du sacerdoce du Christ qui dépasse, qui est beaucoup plus grand, qui est absolu par rapport au sacerdoce transitoire de l'Ancienne Alliance. Donc il n'est pas à la manière des Lévites, mais à la manière de Melchisédek. Il y a culte quand il y a alliance, il y a culte quand il y a loi, c'est ça dans l'Ancien Testament, et il y a purification. Et ce culte-là a pour but de rendre présent Dieu. Dieu agrée les sacrifices et se rend présent et déploie sa gloire, sa Shekinah dans l'Ancien Testament, et il est présent dans la tente de la rencontre, etc. Donc le culte est nécessaire pour quelque part être en présence de Dieu. Dans le Nouveau Testament, les parents de Jésus, une fois ayant reçu l'enfant Jésus, vont aller au temple offrir un culte à Dieu, et comme c'était des pauvres, ils vont offrir deux colombins. Le Lévitique nous rappelle que c'était l'offrande pour les pauvres, et les parents vont le faire. Donc ils vont voir Siméon, qui est prêtre. Voilà. Et vous avez plusieurs figures de prêtres de l'Ancienne Alliance que rencontrent, qui sont dans, marquées dans le Nouveau Testament, en particulier Zacharie, qui a une fonction de prêtre, et lui-même, durant son culte, recevra une révélation angélique qui lui dira que son fils, fils de prêtre, dont prêtre lui-même, Jean, exercera son ministère de prêtre, pas à la manière des autres, mais dans le désert, un peu comme un prophète, Jean le Baptiste. Siméon, lui, exerce son culte, et il voit arriver un couple juif avec un enfant, et il comprend, parce qu'il est ému par l'Esprit, que cet enfant est le Messie, et il a une motion particulière. Voilà. Mais ça s'est passé pendant le culte, aussi, c'est intéressant. Tout l'évangile, d'ailleurs, de Matthieu, commence dans le culte. D'ailleurs, c'est autour du temple, cette histoire-là. Ok. Jésus n'est pas contre le culte de l'Ancien Testament, le culte juif, mais il va l'accomplir. La figure du Christ, c'est qu'il va être le grand prêtre, tel qu'il est contemplé dans l'Épître aux Hébreux, on va y revenir, et que lui-même, ce qu'il est, son corps, va être le nouveau lieu du culte. Ainsi, en Jean chapitre 2, il aura ces paroles provocantes en disant « Détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai ». Et les Juifs lui diront « Mais il a fallu 56 ans pour qu'on le construise, quittez-toi ». Et il est dit dans ce même passage qu'ils ne comprirent pas qu'il s'agissait de son corps et que quand il ressusciterait, voilà. Donc en fait, le corps du Christ est le nouveau temple. Ainsi, de la même manière, quand le Christ expirera sur la croix, le voile du Saint des Saints se déchirera. Parce que la présence de Dieu ne sera plus là, mais sera dans la personne du Christ. Donc le Christ est le nouveau lieu du culte, le nouveau temple. Et donc la religion chrétienne, c'est on rend un culte à Dieu à travers la personne du Christ qui est le nouveau temple, mais qui est aussi le prêtre et qui est aussi la victime. Vous voyez, le Christ va conjuguer à la fois, il est l'agneau pascal de l'Ancien Testament, il est le prêtre, celui qui, il est le sacrifice, mais le sacrificateur, et il est le lieu où on fait le sacrifice. Donc tout s'accomplit en Jésus-Christ comme un culte absolu. Un culte parfait, parce que c'est le culte de Dieu par Dieu, le Christ. Et le Christ est le médiateur, par excellence, qui parle des hommes à Dieu et aux hommes de Dieu, parce que il est Dieu fait homme. Donc il y a un accomplissement du rôle sacerdotal dans le Christ. Voilà, ça c'est pour bien comprendre ce qu'est la ancienne alliance et la nouvelle alliance. La nouvelle alliance dans le Christ prêtre, mort dans son sang. Voilà. Par son sang, il nous réconcilie. Et nous voyons que le sacrifice du Christ, c'est un culte qui accomplit le pardon des péchés. Alors qu'Israël répète sans cesse ce culte-là pour avoir une rémission des péchés, qui n'est pas complète, le Christ, par sa mort sur la croix, accomplit définitivement ce culte, est efficace. Donc il abolit les autres cultes. Alors rentrons un petit peu dans ce mystère du Christ grand prêtre. Si ça vous intéresse, vous pouvez lire l'Épître aux Hébreux. Voilà, lisez-la tranquillement. Et vous pouvez regarder après, dans la Genèse, le passage avec Melchisédek et le psaume de souvenir 109. Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melchisédek. Et là, vous avez des éléments sacerdotaux. Alors, rentrons sur la dimension du Christ grand prêtre. Ce que je dis là, ça a à voir avec la vocation sacerdotale. Je suis obligé de dire tout cela pour parler du sacerdoce. D'abord, il n'y aurait pas eu de sacerdoce du Christ, ni même de sacerdoce de l'Ancien Testament, mais on va parler directement de sacerdoce du Christ qui accomplit le sacerdoce de l'Ancien Testament, s'il n'y avait pas eu péché originel, et donc nécessité de rédemption. Parce que le plan initial de Dieu, c'était qu'une fois créé, nous rentrions dans la vie trinitaire, par adoption filiale. Or, par le péché, il a fallu penser pour Dieu, dans un instant d'éternité, un plan second qui est un plan de rédemption. Et ce plan de rédemption a impliqué l'incarnation. Alors évidemment, il y a des théories théologiques, on ne rentre pas en des débats, est-ce que le Christ aurait dû s'incarner s'il n'y avait pas eu rédemption ? Toujours est-il dans l'Écriture, le Christ s'incarne parce qu'il y a rédemption, et comme le dit Thomas d'Aquin, docteur commun, de fait, c'est pour cette raison prioritairement qu'il s'incarne. Et donc l'incarnation du Christ, Dieu fait homme, est l'activité du Christ grand prêtre qui démarre. Parce que l'activité du Christ grand prêtre est liée à la rédemption. C'est-à-dire de réconcilier et de rendre un culte à Dieu. On aurait pu rendre un culte à Dieu avant, mais là il y a un enjeu de réconciliation, d'offrande, de sacrifice réparatoire. Et donc, l'activité du Christ grand prêtre ne commence pas à la scène simplement, et à la croix. Elle s'accomplit à la scène et à la croix, c'est le même mystère pascal, mais elle commence à l'incarnation. Dès que Dieu se fait homme, Dieu en Jésus-Christ exerce la dimension sacrificielle et la dimension sacerdotale. Ainsi, nos frères orthodoxes qui saisissent cela ont des représentations de la nativité avec Jésus qui est enrôlé, l'enfant, il est enrôlé par le linceul. Il va mourir, il vient pour mourir, il vient pour donner sa vie, il vient pour se sacrifier, il est prêtre. Voilà. Donc on voit cette activité dans l'incarnation du Christ prêtre. De la même manière, les paroles et les actes du Christ sont des actes sacerdotaux. Les paroles « Je te pardonne tes péchés », cette intercession du Christ pour les autres sont des activités sacerdotales. Voyez, ces paraboles sur la miséricorde, c'est le fruit de l'activité sacerdotale, le sacrifice qui nous apporte le pardon des péchés, le sacrifice qui nous apporte la miséricorde. Donc le Seigneur développe cette activité sans cesse. Voyez, l'activité du Rédempteur qui guérit, une activité sacerdotale. Mais il y a des moments, on va dire, éminents où nous voyons cette activité du Christ grand prêtre. On pourrait en citer quatre qui sont... Alors, on pourrait rappeler aussi l'épisode quand il est enfant, Jésus, qui monte au temple seul pour être dans la maison de son père, dans le temple, dans le lieu du culte. On voit à nouveau cette idée. Mais il y a des moments clés qui sont la scène, l'institution de l'Eucharistie, du sacerdoce, qui sont la passion du Christ, la croix, on peut les lier, passion du Christ et croix, et la résurrection. Là, nous avons des éléments forts du Christ prêtre. Et on pourrait même rajouter aussi l'ascension avec le don du Saint-Esprit. Voilà. Alors là, la scène, le Seigneur va vivre le rite juif de la bénédiction du pain, la baraka. Moi, je ne suis pas un spécialiste liturgique, mais c'est ce qui se vivait chez les Juifs, la bénédiction du pain, en commémoration de la traversée de Pâques. Donc c'était un pain qui était sans levain, voilà. Il vit cela, mais ce qui va être nouveau, c'est comme il accomplit le sacrifice juif, ce sacrifice-là va être en sa personne. Il dira « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang livré pour vous ». Il y a des bénédictions juives dans ce rite, il y a toute une liturgie juive, mais à un moment donné, il y a une personnalisation christique, quelque chose qui est recentré sur le Christ. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Et donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se joue de la personne de Jésus. Et en fait, le Seigneur instaure l'Eucharistie. Le Seigneur instaure l'Eucharistie. C'est-à-dire que dans le pain devient le corps, le sang, l'âme. Pardon, le corps, l'âme et la divinité de Jésus-Christ. C'est-à-dire c'est la personne entière de Jésus-Christ qui est là. Ce n'est plus du pain. Et de manger ce pain consacré, ce corps du Christ, c'est consommer le sacrifice. On va y revenir. C'est consommer un sacrifice de rédemption. Ce qui a été dit dans ces quelques phrases de la scène vont être déployés durant la passion, la croix, la résurrection. Il s'est passé quelque chose de très fort, on pourrait dire sous image symbolique, mais ce n'est pas un symbole, c'est réel. Mais en réalité, ça va être compris par la croix. « Ceci est mon corps livré pour vous », on va le comprendre à la croix. Le Christ est victime. Et l'autel de l'Ancien Testament est remplacé par l'autel de la croix. Tout à fait. Mais nous communions au Christ. Si le Christ est dans le pain consacré, si ce n'est plus du pain, si c'est le Christ, c'est qu'il est vivant. Donc ça implique qu'il soit ressuscité. Donc on voit bien que la scène implique résurrection aussi. Et passion, passion et résurrection. Donc c'est le déploiement de ce qui est concentré à la scène. Donc là, le Christ instaure un nouveau culte de communion, de consommation du sacrifice. Je rajouterai des éléments pour méditer sur le Christ grand prêtre, sur la passion. La passion, c'est un engendrement dans la douleur pour recréer la création, pour la restaurer. Donc quand nous voyons le Christ sanguinolent qui marche avec la croix, en réalité nous voyons quelqu'un, Dieu, qui en l'humanité Jésus-Christ restaure sa création. Restaure. Donc il y a une activité de rédemption. C'est une activité donc éminemment sacerdotale. Et la croix du Christ, où le Christ est élevé, c'est le Christ qui prie, qui intercède. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qui prie, qui récite le psaume, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quiconque ce psaume continue, qui prie, en fait, et qui a les bras étendus, comme un priant, en fait, comme un intercédant, même s'ils sont cloués. C'est le grand prêtre, sur l'autel du sacrifice. Là, on a le grand prêtre, voilà. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est que ce culte-là, comme il est le culte véritable, est un culte qui ouvre le ciel. Ainsi, le centurion a une expérience de Dieu en voyant se crucifier. Saint Jean y voit l'eau et le sang, les sacrements qui coulent de ce culte. Et de la même manière, le voile du temple se déchire parce que le culte est caduque et c'est ce culte-là qui est le culte définitif. Et parce que le Christ est le temple qui s'ouvre ce jour-là. En Jean 10, il avait dit « Je suis la porte ». La porte du temple est ouverte à la croix. Vous voyez ? Quelque chose de très fort du culte. Et à la résurrection, nous avons cette toute-puissance du Christ qui a vaincu la mort, c'est un culte vivifiant, le Christ. C'est un culte qui fait traverser la mort. Communier au Christ, c'est communier à un culte qui dépasse la mort, qui n'est pas que pour ici-bas, mais qui rejoint là-haut. Et le ressuscité devient Seigneur. Il est Seigneur. Afin que tout genou fléchisse au nom du Christ, qui est Seigneur, au ciel et sur la terre. Philippiens 2. Tout genou qui fléchisse, c'est un culte d'adoration. On s'agenouille que devant Dieu. Le Christ ressuscité, on s'agenouille devant lui, on lui rend un culte. Le Christ est Seigneur. Voyez. Et puis de fait, le Seigneur montant, le Christ grand prêtre, montant au ciel, intercède auprès du Père sans cesse pour nous obtenir les grâces, et il obtiendra à la Pentecôte des grâces de fondation et de propagation de l'Évangile. Voyez, la Pentecôte. Donc, il y a tout ce phénomène-là où le Christ grand prêtre, à plusieurs moments clés, exerce son sacerdoce. Et il l'exerce toujours. D'ailleurs, la religion du christianisme, c'est une religion du Dieu un et trine. Le culte que nous rendons, c'est le culte à la Trinité. Très bien. Et à la Trinité, nous rendons à Dieu adoration. Nous adorons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Très bien. Avec le Père et le Fils, il reçoit la même adoration et la même gloire. C'est ce que nous disons dans notre credo. Et en même temps, ce culte est un culte de communion. Nous rentrons dans la vie trinitaire. Mais cette porte d'entrée se fait par qui? Par quoi? Par l'intercession du Christ grand prêtre. Toutes nos prières liturgiques sont par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. Le Christ grand prêtre est la porte pour avoir accès au culte de la Trinité. C'est très important. Ainsi, dans la liturgie, toute la liturgie de l'Église, c'est l'activité du Christ grand prêtre qui prie au milieu de nous, que ce soit dans les offices, que ce soit dans la messe de manière imminente, que ce soit dans chaque activité liturgique, c'est toujours le Christ grand prêtre qui prie son Père dans l'Esprit, et les chrétiens sont associés au Christ grand prêtre, par lui, avec lui, en lui. C'est toujours lui qui prie et qui nous aide à vivre le culte au Père, au Fils et à l'Esprit. Ça, c'est très important. Donc, la religion chrétienne est une religion qui voue un culte à la Trinité par la médiation sacerdotale du Christ grand prêtre. Et c'est capital. La médiation sacerdotale du Christ grand prêtre est capitale. Voilà. Et quelle est la place à ce moment-là du baptisé? C'est qu'il est plongé dans la vie trinitaire par le Christ grand prêtre. J'ai reçu en Jésus-Christ le baptême trinitaire, la vie divine, qui me permet d'adorer mon Dieu et de vivre la communion au Dieu trinitaire. Et le baptisé ne peut rendre un culte à la Trinité sans passer par la médiation du Christ. Même Thérèse d'Avila, au niveau spirituel, a été tentée une fois d'aller directement à la Trinité, puis elle reconnaîtra plus tard, il faut passer par le bon Jésus. Méditer les faits et gestes de la vie de Jésus. Parce que les faits et gestes de la vie de Jésus nous donnent accès à Dieu. Parce qu'il est le médiateur, parce qu'il est le Christ grand prêtre. Tu médites la vie de Jésus, tu pries le Jésus aussi. Tu as la médiation sacerdotale de Jésus qui te fait rentrer dans la Trinité. C'est mystérieux, mais c'est vrai. Le Christ le dit, qui me voit, voit le Père. Jean 14, 9. C'est cette même idée. Donc plongez dans la... Ça, donc nous voyons, et quel est l'exercice du baptisé qui exerce son sacerdoce? Vous savez, depuis que nous sommes baptisés, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Arrêtons-nous sur le prêtre. C'est-à-dire, nous rendons un culte à notre Père, dans le Fils, par l'Esprit. Hein? Nous rendons un culte à la Trinité, dans le Christ prêtre. Nous intercessons, nous l'aimons, nous sommes fils dans le Fils. Mais nous avons besoin de recevoir cela, c'est un don de grâce qu'il nous faut recevoir. Et la porte est ouverte à la croix, et à la résurrection elle est ouverte, sans cesse. Mais il nous faut y rentrer, et il nous faut qu'on nous présente devant nous cette porte, parce que nous avons vu que le génie du christianisme, qui a déjà commencé dans l'Ancien Testament avec les médiations sacerdotales, lévitiques, mais accomplies en Jésus-Christ, c'est que notre religion est une religion de médiation. Nous n'allons pas à la Trinité sans passer par le Christ grand prêtre, sans cette médiation. Et cette médiation nous donne, le Christ nous donne accès à la grâce. Il est canal de la grâce. Et le baptisé, recevant cette grâce, peut rendre un culte au Père, dans le Christ grand prêtre. Très bien. Mais il nous faut sans arrêt cette activité qui actualise cette médiation. Et là, on en vient au sacerdoce ministériel, qui est une vocation que j'appellerais de canal de grâce. C'est-à-dire qui donne accès à la grâce. Alors déployons les trois types de vocations. Mariage, vie consacrée, sacerdotale, pour bien comprendre. Toutes ces vocations sont liées à la rédemption. On est tous en régime de pécheur. Voilà, donc il faut l'accepter, on est tous en régime de rédemption. Et on est tous appelés à être saints. Mais la vocation mariage, à la base, est une vocation de création. Au départ, on devait se marier. Il n'était pas bon que l'homme soit seul, il n'est toujours pas bon. Et on devait rentrer dans la vie trinitaire. Il n'y avait pas besoin de prêtre à la base. Depuis l'activité de rédemption, le Seigneur a eu l'invention géniale de faire la vie consacrée. Donc la vie du mariage, c'est quoi? C'est la continuation de l'œuvre créatrice. Soyez féconds, multipliez-vous, sanctifiez et sauvez, donc rentrez plongé dans la rédemption par le sacrement du mariage. Donc elle est élevée de ce qui était de l'ordre de la nature, elle est élevée à un sacrement, donc à une vocation surnaturelle. Mais au départ, il y a une base naturelle. Ce qui n'est pas le cas pour la vie consacrée, où il n'y avait pas de vierge dans la tradition biblique juive. Vierge Marie, c'est une nouveauté. Et d'être eunuque pour le royaume, c'est une nouveauté, la virginité pour le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire depuis le Christ, qui est la vie du Christ lui-même, qui a été vierge et célibataire toute sa vie, ça a été de tendre vers la fin, de montrer l'absolu de Dieu, comme si ce qui était bon naturellement, il y avait une manière éminente, encore plus, encore meilleure, mais qui ne dévaluait pas le mariage, mais meilleure, qui était comme les anges. Au ciel, nous ne sommes pas mariés, nous sommes comme les anges, non pas que nous ayons des ailes, mais que Dieu seul suffit, et qu'ici-bas, nous montrons Dieu seul suffit. Et la vie consacrée montre le terme de la vie humaine qui est en Dieu, donc cette dimension d'eschatologie de terme. Et donc elle est très tournée vers la sanctification, vers l'entrée dans le trois fois saint. Donc c'est même, on dit, la vie de perfection dans les états de vie, parce qu'elle montre l'absolu, le baptême absolutisé dans les règles, dans les conseils évangéliques, tendus vers le terme. Alors mon père, mais elle passe elle aussi par la rédemption. Un consacré, il a besoin d'être sauvé. Et quelle est l'activité du sacerdoce? De manière éminente, même si toutes les trois vocations, c'est aussi une vocation créée depuis la rédemption, mais c'est une vocation de manière éminente de rédemptrice. C'est l'activité du rédempteur, le sacerdoce. Autant la vie consacrée montre le terme et montre ici-bas que le ciel, c'est notre patrie, autant la vocation du mariage montre la continuation de ce qui est bon, qui est créé, sanctifié et sauvé en Jésus-Christ, autant le sacerdoce montre l'activité du Christ rédempteur au sein de son peuple. C'est de manière éminente, c'est pas simplement comme tout prêtre a besoin de la rédemption, parce qu'il a besoin d'être sauvé, c'est que c'est l'activité du rédempteur. Voilà. L'Église nous dit, sacerdoce alter Christus, c'est un autre Christ. C'est l'activité du rédempteur. Et donc on voit que le ministère sacerdotal, ce qui est un petit peu différent, comme dirait le Concile Vatican II, une différence non seulement de degré, mais de nature, ce n'est pas simplement rendre un culte à la Trinité, en recevant les grâces pour, c'est que cette activité du rédempteur est canal de grâce. La vocation du sacerdotal est une vocation de canal de grâce, une vocation source. C'est dans le sacerdoce qu'on reçoit les sacrements et qu'on reçoit le culte à la Trinité. Donc c'est une grande vocation Et d'une certaine manière, elle est, en termes de finalité, tout se comprend dans la finalité. Quand vous, en philosophie, quand vous voulez voir quelque chose, savoir sa pertinence, il faut voir sa finalité. La finalité absolue, c'est en Dieu. D'une certaine manière, la vie consacrée, c'est la vie de perfection. Elle est éminente. Mais d'un point de vue du canal de grâce, donc au niveau instrument pour aller vers ce terme, le sacerdoce est éminent et il mérite une grande dignité. Non pas les personnes qui sont porteuses du sacerdoce, mais le sacerdoce en lui-même. Ça me rappelle cette anecdote qu'on m'avait racontée, une vieille dame qui venait voir le cardinal Lustiger, qui s'agenouille, qui embrasse les mains. Le cardinal Lustiger disait « Mais madame, je ne suis pas Dieu !» La vieille grand-mère de dire « Mais je le sais, voyons !» La question n'était pas là, c'est qu'elle voyait le prêtre. Elle touchait l'instrument de la grâce. Et que ça, c'est très important. Il faut cultiver cette admiration du sacerdoce. Toutes les vocations se valent, hein, encore une fois, le chemin absolu, il y a une égalité dans la dignité parce que nous sommes tous appelés à être saints. Mais il est vrai qu'il y a une dimension éminente dans l'ordre du canal de grâce par le sacerdoce. Ainsi, le sacerdoce est hiérarchique. Et l'étymologie hiérarchique, c'est hieros archai, c'est origine du sacré. Vous voyez, canal de grâce. Sacerdoce. Et c'est un instrument. Et c'est tellement grand que le curé d'Ars admirait cela et il disait lui-même, l'ange ne peut pas consacrer l'hostie, la Vierge Marie ne peut pas le faire. Le prêtre peut le faire. Si vous rencontrez un ange ou un prêtre, saluez d'abord le prêtre. Ça vous paraît étonnant, mais c'est vrai dans le terme de la grâce. C'est juste. Vous voyez, il ne faut pas diviniser les prêtres, parce que les prêtres sont des braves hommes, et on parlera tout à l'heure, ils sont des pauvres pécheurs, des fois ils sont plus pécheurs que d'autres. Mais sur l'active, sur la vocation sacerdotale, le mystère du prêtre, oui, c'est très grand. Dans l'ordre instrumental pour donner la grâce, oui, comme moyen ordinaire. Parce qu'il y a des moyens extraordinaires qui dépassent la dimension sacramentale. Donc ça, c'est important. Parlons maintenant de la vocation sacerdotale quand nous comprenons cela. La vocation sacerdotale, c'est donc le prolongement de l'humanité de Jésus. La vocation sacerdotale, c'est le prolongement de cette médiation du Christ grand prêtre. Quelque part, le Seigneur s'est choisi des humanités. Il se fait un avec elles, pour pouvoir exercer son sacerdoce ici-bas. Il exerce partout sans cesse pour le peuple, mais il veut continuer de manière tangible et humaine sa médiation sacerdotale, il se choisit des humanités. Et d'une certaine manière, il est passé au démultiplié, parce qu'on a pris un paquet, l'histoire. Vous voyez ? Donc quelque part, on a le Christ dans le prêtre. Vous voyez ? C'est très grand. Cette vocation sacerdotale n'est pas un droit, nous dit l'Écriture. Vous voyez ? Nous ne sommes pas, en tout respect, mais je le dirai plusieurs fois parce que c'est des points de divergence fondamentale et des fois c'est des influences sur la théologie de l'Église, sur la compréhension de la mission, même sur la spiritualité aujourd'hui, et le sacerdoce en parlera, il est en crise. Nous ne sommes pas protestants, parce qu'il y a une forme de protestantisation de l'Église catholique sur la question sacerdotale, depuis pas mal d'années. Nous ne sommes pas dans une logique de démocratie où nous allons voter pour qui est prêtre, comme le feront les pasteurs protestants. C'est tout respectable que c'est. Non, c'est comme dans l'Ancien Testament, c'est appelé par Dieu. Ainsi, le prophète allait chercher celui qui était voulu par Dieu. Ainsi, le roi David pour les rois, ce n'était pas le meilleur, c'était le dernier qui a été pris. C'est comme ça. Il y a ceux qui sont appelés. On ne s'arroge pas ce droit, nous dit l'Écriture. Ça relève de Dieu. C'est une élection de Dieu divine. Et du coup, c'est une fois que c'est reconnu et acquiescé librement, ben c'est pour toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas interchangeable, ce n'est pas une fonction qu'on change. Ça, c'est une grande hérésie contemporaine, c'est qu'on pense le sacerdoce en termes de fonction, alors qu'il faut le penser en termes d'être. C'est quelqu'un. Et ce n'est pas quelque chose d'abord qui fait des choses. C'est quelqu'un. S'il fait des choses, on va comparer l'efficacité d'un prêtre à un autre. Non, c'est une personne sacrifiée dans le Christ grand prêtre pour être médiateur et canal de grâce. Donc ce n'est pas un droit, et cette personne est mise à part. Elle est au sein de la communauté, mais elle est mise à part en face de la communauté, comme époux de l'Église. Face, vous le voyez dans Marc 3, 14, 15 ou 13, 14, je ne sais plus, Jésus appela ceux qu'il voulait, choix libre, ceux qu'il voulait, pour les prendre avec lui et les envoyer prêcher. Les prendre avec lui, il y a une mise à part. Cette mise à part, vous la retrouvez dans la prière qu'on dit pour l'unité, c'est vrai, mais qu'on devrait dire d'abord pour la prière sacerdotale en Jean 17, vous avez une compartimentation tripartite de cette prière où le Christ grand prêtre lui-même intercède, prie son Père, puis prie pour ses prêtres, ses apôtres, et prie après pour les disciples qu'auront fait ses prêtres, les apôtres. C'est une prière éminemment sacerdotale qui va passer par la médiation sacerdotale. Ce que je dis, c'est la bonne exégèse aujourd'hui de théologiens sur ce passage-là. Vous voyez, c'est très important. L'appel au sacerdoce est un appel de toute éternité. Voilà. Le Seigneur sait qui sont ses prêtres. Et il révèle cet appel dans l'instant T d'une vie qui peut être jeune, moins jeune, il y a des vocations tardives, mais de toute éternité, il a prévu ce plan de rédemption et il veut passer par un tel ou un tel. C'est mystérieux. Et le Seigneur, quand il appelle quelqu'un, c'est comme s'il disait « Je veux prolonger mon incarnation par toi, mon activité de prêtre, et donner les fruits de la rédemption par toi. » C'est ça. Ainsi, cette personne va être ordonnée. Et vous savez, vous avez sept sacrements. Vous avez trois sacrements de l'initiation qui, dans l'ordre traditionnel, sont baptême, confirmation, eucharistie. Voilà, c'est le sommet. Je vais revenir sur l'eucharistie parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au prêtre. Vous avez deux sacrements de guérison qui sont le sacrement des malades et le sacrement de confession, pardon, de péché. Guérison du corps, guérison de l'âme. Vous avez deux sacrements de communion. Le sacrement du mariage qui est pour ici-bas, parce qu'au ciel, on n'est pas marié, on est comme les anges. Et vous avez le sacrement de l'ordre, qui divisait lui-même en trois parties, trois degrés de l'ordre. Sacrement diaconal, de la dimension diaconale, presbytérale et épiscopale. Les deux derniers degrés sont des degrés sacerdotaux, ce qui sont un peu différents du coup du degré diaconal. Mais ce qui est intéressant, retenez, c'est que le sacrement du baptême, de la confirmation et le sacrement de l'ordre, qui sont les seuls sacrements à ce qu'on appelle caractère. C'est-à-dire qu'une fois que c'est donné, c'est pour la vie et pour la vie éternelle. On ne peut plus enlever ce caractère. Il y a des sacrements qui sont réitérables, confession, eucharistie, sacrement des malades. On peut se marier une fois qu'on est veuf, on peut à nouveau se marier. Même s'ils sont indissolubles, il a efficacité permanente, ce qui n'est pas le cas de la confession. Mais, on appellera ça la réviviscence des sacrements, mais le sacrement à caractère, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est donné, il est posé sur un sceau, sur l'âme, et il est absolu pour l'éternité. Ainsi, le sacrement de l'ordre, diaconal, sacerdotal, épiscopales sont un caractère. Et ainsi se comprend le psaume « Tu es prête pour l'éternité ». La personne est prête pour l'éternité. Alors se pose la question théologique de savoir comment, y a-t-il une activité sacramentelle là-haut? Parce qu'une fois qu'on est aussi, on n'a plus besoin d'être dans la rédemption, évidemment. Mais toujours est-il, la personne reste prête pour l'éternité. Voilà, ça c'est une réalité. Et cette personne prêtre, alors je parle du sacrement, la dimension sacerdotale, je vais revenir sur pas mal de choses, mais sacerdotale, épiscopale. On pourrait dire l'épiscopale, c'est la plénitude du sacerdoce. Mais cette personne, elle est configurée au Christ prêtre, on pourrait dire dans la personne du Christ. Vous voyez, il y a des moments éminents, vous voyez, ce qu'on appelle la théologie l'impersona Christi. Vous l'avez de manière éminente dans le sacrement de l'Eucharistie et le sacrement de la réconciliation, du sacrement de pénitence. Dans ces deux moments, le prêtre ne dit pas « Jésus va faire ça ». C'est Jésus qui dit à travers le prêtre. Le prêtre ne dit pas « Ceci est le corps de Jésus ». Il ne dit pas « Jésus te pardonne les péchés ». Il dit « Ceci est mon corps et je te pardonne tes péchés ». Pour le dire autrement, vous enlevez la tête de Jésus, du prêtre, vous mettez la tête de Jésus, c'est du Jésus direct. C'est Jésus qui a pris l'humanité du prêtre. Et le prêtre agit comme un instrument. Voilà. Pleinement conscient, dans sa pleine liberté, il n'est pas atrophié, mais c'est le Christ, grand prêtre, qui exerce son activité cultuelle de rédemption à travers lui. Et ça, c'est très grand. Il n'y a pas en termes de grandeur de grâce, il n'y a pas plus grand, vous comprenez? Donc ça, c'est l'impersona Christi. Donc c'est quelque chose d'assez assez incroyable. On va y revenir, et puis on va parler, mais vous voyez, par exemple, on va revenir sur l'Eucharistie, entre autres. Je vais parler sur l'Eucharistie. Ce choix des prêtres, de prendre des hommes, est un choix du Christ, que Jean-Paul II a écrit un texte qui, beaucoup de commentateurs s'accordent à dire qu'il y a même mis son infaillibilité pontificale en jeu, dans ce texte-là, en disant, ce qui est écrit, il ne faut plus revenir dessus. Mais il y a deux arguments que donne Jean-Paul II, donc je vais les citer. Pourquoi les prêtres sont des hommes? Voilà. Et puis après, développer des convenances d'arguments secondaires, selon moi. Donc c'est plus relatif. Premier argument absolu, mais qui est un argument de foi, qu'il faut accueillir dans la foi, c'est que c'est le choix du Christ. Point barre, c'est le choix du Christ. Et que le Christ est Dieu, et que ce qu'il choisit, comme il est Dieu, ben il le veut, c'est bien, selon sa sagesse. Qu'on comprenne ou pas obscurément ce point, c'est une vérité. Ça, c'est le choix du Christ. Mais Jean-Paul II de développer dans l'époque féministe des années 90, parce qu'il y avait une pression pour l'ordination des femmes, de développer quand même quelques arguments culturels. De dire premièrement, ben oui, vous voyez déjà, le Christ n'était pas conditionné par la culture, parce que l'argument est de dire, ouais, mais maintenant il y aurait le Christ maintenant, il aurait choisi des femmes. Et de dire, mais écoutez, le Christ était très libre par rapport à son époque. Il se laisse toucher par les pécheurs. Il se révèle d'abord aux femmes, sa messianité avec la Samaritaine, avec Marie-Madeleine. Donc il pouvait très bien le faire s'il le désirait. Mais il n'a pas voulu. Donc, vous voyez, celui qui est très libre culturellement n'a pourtant pas voulu que ça soit cette femme-là soit le ministre de l'activité de sa rédemption. Ah ! Donc on en revient au premier argument, c'est que ça doit être le choix de Dieu. Et qu'il n'est pas conditionné par la culture. Puisqu'il fait des choses choquantes par rapport à la culture, il était capable d'en faire d'autres. Donc il y a le choix de Dieu. C'était vraiment profond. Et donc l'Église n'a pas la capacité, Jean-Paul II dit clairement, n'a pas la capacité de changer ce que Dieu a établi. Vous voyez, il y a des lois cléricales, on peut les changer, des choses comme ça. Dans le droit canonique, il y a des choses qui sont évolutives. Sur le révélé, on ne peut pas, Dieu nous a donné la révélation et la manière dont il a voulu que cette révélation se fasse, les moyens instrumentaux dont le sacerdoce ont été donnés de cette manière-là. Le faire, ça serait désobéir à Dieu et ça ne produirait pas la grâce. Parce que Dieu a voulu se donner que comme ça. C'est fort. Donc Jean-Paul II dit clairement, l'Église n'a pas ce pouvoir de le faire. Donc il faut toujours, voilà, n'en déplaise à certains de pression, c'est pas possible. C'est pas possible. Maintenant, venant aux convenances. Et avant cela, Jean-Paul II cite, je crois, dans La dignité de la femme, la lettre sur Mulieris Dignitatem, qui reprend, mais il ne le dit pas, mais il a le droit d'avoir des sources, Balthazar, en son temps, et Ratzinger, qui ont écrit Marie, première église. En gros, c'est, il dit lui-même, l'Église est mariale avant d'être pétrinienne. C'est-à-dire qu'il y a une grâce mariale qui précède la grâce pétrinienne. Non pas dans l'ordre hiérarchique, mais dans l'ordre de la grâce, de la vie de grâce. Marie a accueilli, Marie, Sainte Famille, c'est première église. Très bien. Donc il y a une grâce mariale. Et donc on voit bien que, d'ailleurs même on voit que les femmes ont une dimension d'apôtre parmi les apôtres. Marie-Madeleine, c'est l'apôtre des apôtres. Donc la question est claire sur la dignité de la femme et que les femmes ont mieux tenu dans la foi au pied de la croix que les hommes. Donc la question n'est pas là. Mais quelle est la convenance à ce que ce soit des hommes, si c'est le choix de Dieu et que le Christ n'était pas lié à la culture? C'est parce que, alors je développe des arguments anthropologiques, c'est d'abord parce que le symbole est clair. Le Christ était un homme. Et le prêtre est un homme, parce que c'est un autre Christ. Là, c'est un argument de signe. Au niveau du signe sacramentel, c'est très clair. Mais il y a d'autres arguments. C'est que la vocation sacerdotale est une vocation masculine dans son essence. Et ça, c'est important, parce que le Christ est époux de l'Église. Et la spiritualité de l'Église, c'est d'être épouse. Or, le Christ, prêtre, est époux de l'Église. Il est face à l'épouse, il se donne à l'épouse. Alors, vous n'imaginez pas une épouse qui se donne à une épouse. Ça ne marche pas. Dans le symbole. Et plus profondément encore, c'est que ça correspond, on est toujours dans la deuxième dimension symbolique, même si la première me semble plus forte, c'est-à-dire la dimension que le Christ était un homme. Mais il y a plus fort que ça, c'est que la manière de vivre d'un prêtre est profondément masculine. Et on y vient. Dans l'histoire de l'Église, la spiritualité féminine est une spiritualité de réception. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une activité. C'est qu'il y a une activité beaucoup plus de réception. Et on va aller dans les détails, c'est vrai dans la sexualité. La femme reçoit la semence, elle engendre en son sein. L'homme transmet, il n'engendre pas en lui-même. Donc il y a une activité de réception, et comme l'être humain est tout un, ce qui est corps et âme, c'est tout un, la femme reçoit, et d'ailleurs dans l'histoire de l'Église comme dans la Bible, vous avez les réceptions spirituelles de Dieu, les semences de Dieu, la parole de Dieu, c'est de la même manière. Tout est lié à niveau spirituel comme niveau biologique. Les grandes mystiques sont des femmes. Il y a très peu d'hommes. Et qu'a été l'activité des hommes de répandre, de transmettre cette réception? C'est une vertu d'expansion. Vous voyez, pour ceux qui ont suivi la conférence sur la masculinité, on a développé ce point-là. Donc il y a une expansion. Or, que fait le prêtre dans la parole de Dieu? Il transmet la parole, la semence. Il se donne à l'épouse. Et qu'on regarde encore plus dans l'activité. L'activité apostolique est masculine, il y a un rapport au faire chez l'homme qui est beaucoup plus important. À vocation égale, vous promettez un carme et une carmélite, la carmélite peut être cloîtrée, vous mettez un carme que cloîtré, il explose. Parce qu'il a besoin d'être plus dans l'action, dans le faire, dans la transmission. Parce que c'est masculin. Or, le sacerdoce est dans la transmission. C'est beaucoup plus masculin. Donc Dieu fait bien les choses. Ce qu'il impose en quelque part de droit divin, en réalité, ça convient à la nature humaine, à son anthropologie. Et c'est fort. Donc ça, c'est des éléments à méditer. Il y a des convenances anthropologiques pour que le ministère sacerdotal soit un ministère masculin. Ce ministère sacerdotal a été fondé sur les apôtres. Il est d'abord épiscopal. Voilà, c'est la plénitude du sacerdoce. Et parmi ces évêques, il y en a un qui a une grâce particulière, c'est le primus inter pares, c'est Pierre, qui a une grâce d'édification de ses frères. D'accord. Je ne rentre pas sur la théologie de l'épiscopat qui est développée très fortement à Vatican II, mais toujours, c'est que les prêtres, les presbytres, les anciens, dans le Nouveau Testament, sont ceux qui participent, qui collaborent à l'apôtre, qui exercent leur sacerdoce en lien avec l'apôtre. Donc ils sont prêtres, de manière subordonnée, ils n'ont que le premier degré du sacerdoce, donc deuxième degré de l'ordre, pas le deuxième degré du sacerdoce, troisième degré de l'ordre. Mais ils participent. Voilà. Et du coup, ils nomment celui qui est l'évêque, parce que là où est l'évêque, là est l'Église, ils le nomment à chaque Eucharistie, dans le culte, dans l'activité de la rédemption de manière imminente, ils nomment l'apôtre. Vous voyez, très bien. J'ai parlé du caractère sacerdotal, donc il y a quelque chose qui est donné dans l'âme, et ça donne un certain pouvoir au prêtre. Alors on est très mal à l'aise sur la question pouvoir, donc moi je vais revenir en bloc dessus, pas pour provoquer, mais parce que je pense que les temps sont venus de reparler de tout ça, de manière juste et saine et tranquillisée, mais d'en parler, voilà, quitte à un peu perforer des portes, mais c'est nécessaire. Tout d'abord, le prêtre, comme l'évêque, de manière éminente l'évêque, le prêtre est configuré au Christ tête et chef, voilà, il est la tête du corps, voilà, c'est le bon pasteur qui conduit son troupeau. Le pape François a dit des choses très justes. Des fois, le pasteur est derrière, au milieu et devant. Il faut savoir sentir l'odeur des brebis. Tout à fait vrai. Mais toujours est-il, il conduit son troupeau. Donc, il est configuré au Christ tête et chef. Voyez. Donc, il doit donner sa vie en premier. Il doit passer devant et montrer l'exemple. Il doit se sacrifier pour les autres. Alors, n'en déplaise, le mot chef, c'est Vatican II. C'est dogmatique. Donc, on peut être allergique avec une forme d'autorité, mais enfin, c'est dans le texte. Et on rappelle que chef, il y a un lien avec caput, c'est la tête. Il a des pouvoirs particuliers, le prêtre. Ce qu'on appelle les trois pouvoirs, les munus, les tria monera, qui sont, je rappelle encore, ces pouvoirs sont des pouvoirs de serviteur. C'est pas pour rien d'ailleurs que l'Église ordonne un futur candidat au sacerdoce avant diacre, pour lui dire que la porte d'entrée, c'est le service. Et le Seigneur va donner un enseignement à ses prêtres sur le service. En Jean 13, l'explication de la scène avec le lavement des pieds, qui est un acte diaconal, c'est pour faire rentrer tous ces évêques dans la dimension de service. C'est très clair. Donc, ce pouvoir qui est un service, au service de l'Église, encore une fois, l'époux au service de l'Église, de son épouse, c'est ce qu'on appelle les trois pouvoirs qui sont le pouvoir d'enseigner, le munus docendi, le docteur, le pouvoir de sanctifier, le munus sanctificandi, et le pouvoir de gouverner, n'en déplaise encore hein, cette idée hein, du chef ou pas, le munus regendi, la régence. Ça, c'est le Vatican II, même avant, c'est la grande tradition de l'Église, Concile de Trente, etc. Alors, ces trois pouvoirs, c'est quoi? C'est-à-dire que tout le monde peut enseigner la foi, pas besoin d'avoir de prêtre. Mais le prêtre, en fait, il enseigne en tant que ministre de l'Église, c'est-à-dire au nom de l'Église. Il ne dit pas sa foi, il dit de manière officielle la foi de l'Église. Et que l'homélie du prêtre, un des lieux de manière éminente où il enseigne, pour avoir un très bon théologien à côté, mais ce n'est pas une homélie. Parce que dans l'homélie, comme dans l'enseignement du prêtre, c'est le Christ prêtre, guide du troupeau, qui parle à son troupeau et qui enseigne avec autorité spirituelle, au nom de l'Église. Le Vatican II est très fort parce qu'il dit là où est le prêtre, là est le mystère de l'Église universelle. Ce n'est pas que pour le pape et l'évêque, il le dit dans un texte conciliaire. Il y a quelque chose du ministre de l'Église qui parle. Et du coup, le ministre doit être formé pour, de fait, doit faire des études pour vérifier ce qui est la foi, ce qui n'est pas la foi et discerner. Mais il y a une grâce surnaturelle de l'enseignement. Comme me disait un jour un prêtre, avant de prêcher, qui me confiait ça, qui lui-même avait reçu ça, d'un autre prêtre qui lui avait dit « Appuie-toi sur la grâce de ton ordre, de l'ordre que tu as reçu pour prêcher. Tu as reçu une grâce spirituelle pour ça, pour enseigner le peuple. » Docendi. Sanctificandi, c'est-à-dire, c'est un peu le cœur, c'est-à-dire, c'est faire que l'Église soit sainte et immaculée. Comme l'époux veut que son Église soit sainte et immaculée, eh ben, ça passera, entre autres, par les sacrements. Et aussi par faire des saints, par plein de moyens, la parole, etc., qui sanctifie, les conseils, etc., direction spirituelle, mais surtout par les sacrements qui sanctifient. voilà, en particulier l'Eucharistie, la confession, le baptême, etc., tous les sacrements. Et donc dans le Sancti Fianti, là vous avez la dimension canale aussi de la grâce, comme dans les trois. Et le Regendi, c'est quoi? C'est le guide, le gouvernant du troupeau, c'est-à-dire celui qui discerne, celui qui guide le troupeau. Voyez, il y a une grâce. Et là, on pourrait développer ça, mais on va parler, quand on va parler des combats spirituels du prêtre. J'accélère, on en reparlera, il y a encore un peu de temps. Bon, je continue. Bon, je passe le côté paternel du prêtre, mais on a dit que le prêtre n'était pas un père. Alors, c'est une idiotie phénoménale. Déjà, c'est dans les textes conciliaires. C'est rappelé dans le directoire qu'il est père. Mais ce que je vais dire en deux mots, c'est que la paternité de Dieu, comme le dit Éphésiens, se comprend de Dieu qui est Père, source de toute paternité. Or, la paternité humaine est une vraie paternité, mais ce n'est pas la base. La base, c'est Dieu, la paternité fondamentale de référence. Or, la paternité humaine, elle doit être, pas un écran, mais une médiation pour aller à la paternité de Dieu. Quand quelqu'un est touché par son père ou, voilà, ou ses parents, il a du mal à voir que Dieu est Père. On est d'accord. Mais le prêtre aussi est Père, parce qu'il n'engendre pas biologiquement, mais spirituellement. Et comme la paternité de Dieu est spirituelle, le prêtre est plus père que le père de biologique. Parce que c'est éminent d'être prêtre, d'être d'une paternité spirituelle. Hey, il faut inverser les rôles. Voyez. Et de général, comme le dirait Kolb, quand vous grandissez, vous prenez de l'indépendance avec vos parents biologiques, mais vous rendez de plus en plus dépendant de l'Église. Donc ce n'est pas une paternité qui enferme, mais qui déploie. Oui, c'est une vérité. Il faut inverser les rapports, là. Bon, je ne développe pas plus que cela. Je vais développer encore un point. C'est le prêtre et l'Eucharistie. J'aurais voulu développer le combat du prêtre. C'était un mot frais une autre fois. Le combat du prêtre et le sacerdoce dans le célibat. D'abord, Eucharistie et sacerdoce sont liés. C'est comme la deux faces d'une même pièce. Si nous recevons chronologiquement et si le baptême nous fait rentrer dans la vie de grâce, et il y a une chronologie dans les sacrements, hein, on est baptisé, confirmé, première communion, et après on se marie, et puis après, ou alors on devient prêtre, etc. Il y a une chronologie dans les sacrements, dans tout ça. En réalité, la source de tous les sacrements, c'est l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie, c'est Christ. Et Christ est la source de tous les sacrements. Il est le grand prêtre, le lieu du culte. Comme le dit l'Église, c'est la source des sacrements, c'est le sacrement des sacrements. Or, ce sacrement, Christ, c'est l'Eucharistie, ne peut être produit, engendré que par le sacerdoce. Il n'y a pas d'Eucharistie sans sacerdoce. Et tout sacerdoce est pour l'Eucharistie. Donc vous voyez, il y a quelque chose de génétique entre ces deux sacrements qui sont source pour tout le reste sacramentel. Même si ce n'est pas chronologique, c'est le fondement. Ça fait réfléchir. Donc la vocation du prêtre, vous voyez que quand on attaque le prêtre, on touche à la racine des sacrements. Et on touche au dispositif sacramentel de l'Église, très fortement, plus qu'à un baptisé. On touche à quelque chose qui est source. Et de fait, dans l'Eucharistie, le prêtre ne va pas consister simplement à communier comme ses frères, mais il va se sacrifier avec le Christ. Ça, c'est quelque chose qu'on peut découvrir, qui est très beau, c'est que le prêtre, s'il ne communie pas à l'hostie consacrée et au vin consacré à la messe, vous pouvez communier à la messe, et le prêtre non, il n'y a pas la messe. Le prêtre peut communier et vous non, il y a la messe. Parce qu'en fait, il faut pour qu'il y ait la messe, qu'il y ait une victime qui se sacrifie avec le Christ, et c'est le prêtre. Et quand il communie à l'hostie, qu'est-ce qu'il fait? Il consomme le sacrifice. Il est uni au Christ. Ceci est mon corps livré pour vous. C'est la victime qui ne fait qu'un avec le Christ grand prêtre et qui meurt en direct. C'est tellement, il ne meurt pas physiquement, mais vous avez des mystiques qui ont vécu cette crucifixion. Le Padre Pio, c'était les stigmates, en dehors et pendant la messe, parce qu'il est configuré à la croix. Donc il y a cette consommation du Christ, le prêtre meurt avec le Christ, c'est la victime, c'est le prêtre, c'est la victime, pour l'offrande de la rédemption. Ça c'est très fort. Je terminerai par la grâce du célibat, puis après j'arrête. Dans le sacerdoce, le célibat n'est pas l'essence du sacerdoce. On peut dissocier le sacerdoce ministériel du célibat. Donc c'est quelque chose qu'on s'amuse des fois à faire théologiquement en disant ben « c'est séparé, donc voyez, on pourrait revenir là-dessus ». C'est vrai, dans l'Église orientale, on n'a pas cela. Et même dans l'Église latine, il y a des cas où on a ordonné des personnes mariées. Mais remettons un peu les choses dans l'ordre, parce que ça mériterait un petit peu un éclaircissement. La première chose, c'est que le Christ a vécu une vie de célibataire. Donc il y a une convenance à imiter le Christ grand prêtre, à ce que le prêtre soit célibataire. Mais plus que cela, l'Église y a reconnu en Occident, non pas d'abord une discipline, c'est toujours réducteur, c'est toujours négatif, ça a été codifié en discipline, d'accord, mais d'abord un appel de Dieu surnaturel pour les prêtres, et parce qu'il y a un appel, un don de Dieu qui est fait aux prêtres. C'est-à-dire, et de fait, il y a deux rites dans la liturgie latine, soit la personne, au moment de l'ordination, chemine vers le célibat en même temps, soit l'appel au célibat est fait avant parce qu'on y reconnaît l'appel au célibat avant l'ordination. Là, c'est deux rites possibles dans l'ordination. Parce qu'effectivement, l'Église reconnaît un appel au célibat parce que Dieu donne cette grâce. Et cette grâce était une vraie conformité, rend plus fructueux le ministère sacerdotal, configure du coup les prêtres à des pseudo-religieux, c'est pas des religieux, je vous ai dit, parce qu'ils ne sont pas leur mystique, c'est époux de l'Église, donné à l'Église, mais ils sont de fait, ils vivent comme des consacrés, ils sont consacrés, en effet. Et l'Église orientale honore tellement cette dimension qu'on lui fait dire que, ben oui, il y a des prêtres mariés, ce qui est vrai, et c'est très beau aussi, très bien, mais l'Église orientale vénère tellement cette disposition-là qu'elle ne choisit que pour les évêques, donc la plénitude du sacerdoce, que des consacrés. Et elle a une grande admiration pour le célibat occidental. Je ferai dire, entre autres, que frère Roger de Thésée disait en son temps, parce qu'il est mort, qui était protestant, parce qu'il y avait une foi catholique, disait en son temps qu'il ne fallait surtout pas que l'Église lâche ce point, parce que c'était ce qui ancrait les sacerdoces en Dieu. Voilà. Je pourrais développer tous les points après, mais je ne peux pas, sur le combat spirituel du prêtre, les enjeux de prophétie, mais excusez-moi, dommage.